Sixième chapitre. Alain V, les Penthièvres, Conon II, Guillaume de Normandie, Hoël V, Alain Ferjan, la première croisade, Conon III, les communes, Pierre Abélard. Alain V, fils mineur de Geoffroy et de la duchesse Arvoise, régna sous les titres de comte de Vannes et de Rennes et de duc de Bretagne, de 1008 à 1014. Les paysans se soulevèrent en masse et une horrible guerre civile ravagea le pays. Arvoise fit monter à cheval son fils, encore très jeune, et l'envoya avec le reste de sa noblesse contre les rebelles. L'armée ducale leur livra bataille en rase campagne et en fit un grand massacre. Puis Alain résolut de secouer le joug de la Normandie et il refusa l'hommage à Robert le Diable, son cousin. Les Bretons et les Normands dévastèrent les uns le pays de Dol, les autres le pays d'Avranches. Enfin, Alain dut céder, et il fit à Robert hommage pour parage, c'est-à-dire partiel. Les années suivantes furent remplies par de nouvelles guerres civiles. En 1034, la duchesse Arvoise ferma les yeux, et ses deux fils, Alain V et Eudon, devenus majeurs, se battirent sur son tombeau. Eudon forme la tige de cette grande maison de Penthièvre, cadette de Bretagne, dont les démêlés avec la branche aînée durèrent 500 ans. Lorsqu'Alain mourut, en 1040, son fils Conon II n'avait encore que 3 mois. Le comte Eudon s'empara de la tutelle qu'il exerça pendant 15 ans. La noblesse bretonne fut obligée de prendre les armes pour délivrer le jeune prince retenu prisonnier. Conon, à peine majeur, se vengea de la déloyauté de son parent auquel il déclara la guerre. Eudon, vaincu, eut l'habileté d'entraîner le fils de Robert le Diable à prendre les armes contre le fils de son tuteur. Le duc de Bretagne, indigné d'une pareille ingratitude, arma 3000 barques pour transporter son armée sur les côtes de la Normandie et il adressa un cartel au duc. Guillaume fut vivement alarmé de cette menace. La veille de son départ pour l'Angleterre, un crime le délivra de l'adversaire qu'il redoutait. Le duc de Bretagne mourut subitement dans d'affreuses convulsions, occasionnées, dit-on, par un poison subtil dont l'un de ses officiers avait imprégné ses gants et son cornet. Guillaume donna aussitôt le signal du départ. Alain, dit Leroux, fils du comte Eudon de Penthièvre, et une foule de chevaliers et d'écuyers bretons se rangèrent sous sa bannière. La guerre contre les Saozans était toujours populaire parmi les descendants des anciens émigrés de l'île. La victoire de Hastings, 1066, permit à Guillaume de récompenser magnifiquement les services de ses vaillants auxiliaires, les comtes de Léon, de Porwet, les sires de Dinan, de Gaël, de Fougères, de Châteaugiron et de Loéac, reçurent de la munificence du nouveau roi d'Angleterre de riches dotations. Le comte de Penthièvre, Alain Leroux, eut en partage le vaste comté d'Edwin. Ses fortunes, acquises si subitement, enflammèrent la cupidité des guerriers d'outre-mer. Ils affluèrent à la cour de Guillaume. Un vieux dicton en rime montre le premier seigneur de Conesbé arrivant du fond de la Basse-Bretagne avec son épouse Tiphaine, sa servante Mantfa et son chien Mardi Gras. William de Conesbé, come out of Brittany, with his wife Tiffany and his maid Manfas and his dogs Hardigras. Les derniers Celtes de l'Angleterre se réfugièrent auprès des derniers Celtes de l'Armorique. Le successeur de Conon II, Hoël V, les reçut avec bienveillance. Le règne de Hoël fut marqué par un événement capital, l'alliance de la France et de la Bretagne contre la Normandie. Revenu d'Angleterre, Guillaume assiégeait Dol, exigeant l'hommage du duc de Bretagne qui le refusait. La place, défendue par Alain Ferjan, fils du duc, tenait depuis 40 jours lorsque Philippe Ier, roi de France, contraignit les Normands à se retirer en 1075. Alain Ferjan, couronné duc après son père, 1084, défendit une seconde fois Dol avec tant de gloire contre le conquérant que Guillaume vaincu voulut se faire un allié de son vainqueur et lui donna sa fille Constance en mariage. Quelques années après, au cri poussé par les chrétiens de la péninsule sous le cimetière des Turcs, il résolut de prendre part à la croisade. Il hésita d'abord à quitter la Bretagne, mais un tremblement de terre le décida, et se réconciliant avec ses ennemis, il partit avec Robert, duc de Normandie. Après s'être distingué dans trois grandes batailles, il arriva des premiers au tombeau de Jésus-Christ, le jour de la prise de Jérusalem, et ses efforts ne furent pas inutiles pour faire couronner Godefroy de Bouillon, 1099. Alain et le duc Robert revinrent de la Terre Sainte en 1101. Ce dernier, retrouvant son frère Henri assis sur le trône d'Angleterre, à la place de Guillaume le Roux qui venait de mourir, lui déclara la guerre, et avec l'aide de la cavalerie fournie par Alain, il le battit à Tinchebray. Il l'enferma ensuite jusqu'à sa mort. Peu de temps après, le duc de Bretagne, pris d'un mal dangereux, dégoûté du trône, de la guerre et du monde, alla finir ses jours sous le froc à Saint-Sauveur de Redon, qu'il combla de richesses. Il eut le triple mérite du courage, de la piété et de la sagesse. On lui doit une excellente administration de la justice et la réorganisation des États, qui avaient beaucoup souffert des guerres extérieures et des troubles civils. À la mort de Constance, sa première femme, il avait épousé l'aimable et pieuse Ermengarde, fille du comte d'Anjou. À l'exemple de son mari, la duchesse voulut ensevelir sa vieillesse dans un couvent. Son fils aîné, Conan III, fut duc de Bretagne après la retraite de son père. Le long règne de Conan III, 1112 à 1148, fut marqué par des guerres civiles et religieuses et par deux événements dont l'un fut aussi fatal à la Bretagne que l'autre devait être heureux pour l'Europe. Le premier est le traité de Gisors par lequel Louis le Gros, roi de France, reconnut la suzeraineté du roi Henri d'Angleterre comme duc de Normandie, non plus seulement pour une portion de la Bretagne, mais sur la Bretagne tout entière. Le second n'est autre que l'affranchissement des communes en France, en Allemagne et en Angleterre. Il s'en faut toutefois que ce prince les ait affranchis en Bretagne. La bourgeoisie y était depuis longtemps constituée. Il ne fit que la consolider par des lois qui soulagèrent les petits en réprimant les grands et donnèrent au pouvoir ducal une nouvelle popularité. L'homme de Bretagne qui fit le plus de bruit dans ce siècle et dans le monde entier fut Pierre Abélard, né dans le bourg du Palais entre Nantes et Clisson en 1079. Il fut confié dès son enfance par son père Béranger à des maîtres habiles dont les leçons développèrent bientôt en lui de merveilleuses facultés. Dévoré de la soif d'apprendre, il parcourt les provinces, ici interrogeant les savants, là appelant au combat les maîtres du raisonnement et de la science. C'était l'époque où les belles lettres, pendant longtemps abandonnées, commençaient à refleurir, et le pape Grégoire VII n'avait pas peu contribué à ce réveil de l'esprit humain en faisant triompher l'intelligence opprimée par la force. Dans tous les monastères surgissaient des professeurs habiles. Un grand nombre d'écoles inférieures se transformèrent en universités. Abélard ne tarda pas à se placer à la tête du mouvement qui se produisait partout. Il joignait à un grand talent comme dialecticien une connaissance plus qu'ordinaire de la philosophie grecque, et la lecture des classiques avait donné à son esprit un certain caractère d'élégance et de liberté qui relevait singulièrement sa manière d'enseigner et d'écrire. Son enseignement attira à Paris une foule incroyable de jeunes gens, de là la fondation de l'université. Mais des erreurs très graves contre la foi l'entraînèrent à la révolte contre l'Église, et de là à des fautes honteuses qu'il pleura plus tard. Il mourut à Cluny en 1142, à l'âge de 63 ans. Conan le Gros régnait encore lorsqu'eut lieu la seconde croisade, sous la conduite du jeune roi de France, Louis VII. Ceux des seigneurs bretons qui étaient revenus de la première, et quelques autres dont les noms sont restés inconnus, y prirent généreusement part. L'expédition n'eut malheureusement d'autres résultats qu'une victoire de Louis VII près du Méandre et la destruction de l'armée française et flamande.